At 5 o'clock, I try to wake up from my bed. I'm tired but I'm going through. I'm fine, I know the dream come true. I love you so, I can let you go. Let you go 5 miles away. You make me smile, you make me smile. I love you so, I can let you go. Let you go 5 miles away. You make me smile, you make me smile. At 5 o'clock, I try to wake up from my bed. I'm tired but I'm going through. I'm fine, I know the dream come true. Keep facing you. At 5 o'clock, I try to wake up from my bed. I'm tired but I'm going through. I'm fine, I know the dream come true. Keep facing you. I love you so, I wanna let you know. Let you know 5 times a day. You make me smile, you make me smile. I love you so, I won't let you know. Let you know 5 times a day. You make me smile, you make me smile. I try to wake up from my bed. I'm tired but I'm going through. I'm fine, I know the dream come true. Keep facing you. At 5 o'clock, I try to wake up from my bed. I'm tired but I'm going through. I'm fine, I know the dream come true.
Oxy,
t'écoute Radio Girol.
www.girol.org.
Et bonsoir à tous. T'as des micros là ?
Ouais.
Mais là c'est en double. T'as des micros ?
Ouais.
Bon, c'est bon. En fait, on s'est loupé. Bon, rebonsoir à tous. Donc, vous êtes en direct du centre d'animation à Bordeaux depuis l'antre du collectif Girol pour une heure d'émission autour des cultures libres. Comme d'habitude, avec un programme un petit peu chargé, encore une fois.
Comme d'habitude.
Ouais, comme d'habitude. Alors déjà, on va dire bonsoir à tous. Bonsoir Antoine, bonsoir Isa.
Bonsoir.
Bonsoir Thomas.
Bonsoir.
Bon, mais ça, vous nous connaissez déjà. Et bonsoir Julien.
Bonsoir.
Qui vient ce soir pour... oui, on va monter, mais... Je suis trop fort ?
J'ai du micro.
Je ne sais même plus lequel c'est, mon micro. Là,
c'est la catastrophe.
C'est la catastrophe. Là. Mais du coup,
je n'ai pas de retour.
Je n'ai pas.
On a.
Alors, faut que tu sois sur le 12 ici. Attention.
Attention. On va régler le micro en direct.
Ça, c'est du direct. Hein. Je crois qu'on. C'est très rare qu'on règle en direct quand même.
Le mien, c'est lequel ? C'est celui noir.
Parce que pour la petite explication, en fait, on a eu une petite merde juste avant, donc on a mélangé tous les câbles. En
1, 2, 1, 2, 1, 2. Je suis sur le 12. Non,
un peu dessus. Vas-y.
Ouais, mais je vais peut-être monter le général dans ce cas-là. Là.
Voilà.
Ouais.
C'est mieux. On est bien.
On est bien. On va du coup baisser le retour. Bon, on y arrive. Doucement, sûrement, on y arrive. Alors, donc je vous disais au programme de ce soir, nous allons parler de quoi ? Nous allons déjà dans le désordre ou dans l'ordre. De quoi par quoi on va commencer en fait ?
Un sujet court.
Un sujet court.
On a plein de sujets. Hein, ce
on
soir.
On a plein de sujets.
Pas mal de choses.
Je propose qu'on commence par parler du melting code. Voilà, un petit sujet de 5 petites minutes autour du melting code. Et ensuite, Thomas va encore nous parler de musique libre.
Voilà,
ça va être notre chroniqueur musique libre sur Radio Girol. Ensuite, nous allons vous parler avec Julien de l'Open Bidouille Camp à Bordeaux. Parce que les Open Bidouille Camp, il y en a...
C'est
juste de l'autre côté du boulevard, à 50 mètres.
À 50, voilà.
C'était Bordeaux, mais on était à Bordeaux.
Voilà. Alors,
j'ai pas de son pour Julien.
Alors, on va remonter. Non, c'est bon, c'est moi qui gère. Non, c'est la merde aujourd'hui.
C'est bon, vous m'entendez cette fois ?
Ouais, cette fois on t'entend. Donc, okay, oui, tu disais, c'est à.
Oui, je disais, non, c'est pas à Bordeaux, c'est à 50 mètres près, on est à Bègle, voilà. Juste de l'autre côté du.
Pas de son pour Julien, mais on va y arriver. Est-ce que le micro est allumé ? Première question.
Oui.
Ouais. et ouais. Julien, mais pourtant je suis plus à fond.
Alors, bah c'est bon là, ouais. Tu m'entends?
Moi j'étais en retour. Vas-y, essaye.
Ben allô.
C'est ouais. Bon.
C'est bon. Ok.
On est bon.
Bon. Troisième tour d'Alti.
Première fois de la radio avec Girol.
c'est la radio bidouille un peu.
Ouais, c'est ça. C'est l'antenne. C'est radio bidouille.
C'est l'open radio bidouille.
C'est ça. C'est le radio bidouille.
Donc on reviendra sur ton sujet. Donc à Bègles, voilà, très important. C'est ça. À côté des pointillés bordelais.
C'est ça. Sur les pointillés quasiment.
Hein. C'est quasiment sur ouais. Les pointillés. Ensuite, on vous parlera de Bad Golf 2, un jeu qui a été laissé par son studio à la communauté sous licence Creative Commons by non commercial. Un peu bise. Voilà. Et ensuite, on parlera de musique libre. On vous aussi, voilà, ça sera l'occasion justement d'aborder. On profitera du petit temps de parole de Thomas pour vous parler de musique libre et licence et notamment la galère.
Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet.
Voilà. Mais là, on va plutôt essayer de se focaliser sur la galère pour effectivement s'assurer qu'une licence est bien libre auprès de son auteur. Et parfois même l'auteur ne sait pas que sa musique qu'il croit diffuser sous licence libre ne l'est pas. On y reviendra dessus et le parcours du combattant chaque mois que doit mener le collectif Girol et notamment Thomas pour pouvoir vous proposer de la vraie musique libre à l'antenne. Et puis on fera un petit tour de l'actualité, il y a des trucs super sympas entre YouTube, Sony, tout ça. Voilà, on va diffuser un premier jingle et on va vous parler du Melting Code. Non, pas de jingle.
C'est rigolo le décalage.
Ah, un petit jingle. C'est bien. Donc, rebonsoir tout le monde. Alors, bonsoir Isa, parce que c'est toi qui as proposé le sujet, alors tu, elle a pas de micro. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais?
Elle est bientôt plus que 35 cm près du micro.
J'essaye de pas devenir sourde avec le jingle.
On peut te rallonger le micro un petit peu. Alors,
ce que vous n'avez pas entendu, c'est que pour nous, le son dans nos oreilles était très fort lors
du jingle. Oui.
Parce que de notre côté, normalement, le son il est quand même bien normalisé, donc vous n'avez pas le même effet qui se coule ou pas. Donc voilà. Oui, le Melting Code. Donc on n'en a pas parlé dans les épisodes précédents pour l'annoncer. Donc c'est maintenant. Ça a commencé ce week-end. Qu'est-ce que c'est-il que le Melting Code? En fait, c'est un événement qui se déroule sur une durée d'une quinzaine de jours et qui est organisé à la base par les morphogénistes.
Donc, on entend un window démarrer.
Non, je crois que c'est du Ubuntu.
Alors, il y a eu déjà quelques ateliers, enfin, il va y avoir. Il y a eu des événements ce week-end, je ne me rappelle plus ce que c'était exactement, mais il y en a eu samedi. Sur le programme, et oui, mais moi je parle pas aussi fort que Yorick. Antoine, il me dit que je parle pas assez fort, mais si.
Voilà, j'ai monté.
Voilà. Bon, il y a encore des réglages de son à faire. Voilà. Par exemple, vous aurez demain un atelier son et maqué. Donc, ça, ça se passe à la médiathèque de Thouars à Talence. Vous avez.
Juste pour donner une info à nos auditeurs, le Maki-Maki, c'est un espèce de contrôleur.
Ouais. Excusez-moi.
C'est un espèce de contrôleur USB sur lequel c'est une espèce de manette, mais on peut interfacer cette manette avec plein de choses, juste avec des fils électriques. On peut même activer la manette rien qu'avec notre corps. C'est assez intéressant. On en a une ici à l'espace culture multimédia du centre d'animation, et c'est des trucs assez rigolos.
Voilà, donc l'objectif, c'est que des gens qui ne connaissent pas le milieu, tout ça, qui apprennent à se servir de ces choses-là, s'emparent en fait de tout ce qui est éléments numériques qui peuvent vivre autour de nous et dont on n'a pas forcément conscience. Voilà. Et donc il y a plein de choses autour de ça. Il y a un concert électroacoustique, il y a un concert au casque, il y a un atelier stop motion, un workshop pure data, parce que c'est vrai qu'ils sont quand même des bons spécialistes de pure data, qui est un logiciel qui permet donc d'interfacer de l'audio, de la vidéo, de faire de la création
avec
partir
des capteurs.
De code, voilà, avec des capteurs notamment. Un workshop e-textile. Et puis aussi une conférence à Ré-Sciences au sujet des cultures libres, je crois, de l'art et de la culture libre. Donc il y a pas mal de choses, et tout ça c'est jusqu'au 17 avril. Et vous retrouverez le programme de tout ça sur le site qui est donc meltingcode.quelque chose, je ne sais plus quoi, .net je crois, si je ne me trompe pas. Meltingcode.net.
Alors voilà. Juste pour info aussi, les morphogénistes est un collectif d'artistes avant tout qui n'a pas attendu que Google mette le wearable à la mode, et donc ils ont beaucoup travaillé sur le e-textile, des textiles augmentés de capteurs pour pouvoir s'en servir dans la création numérique. Et effectivement, comme tu le disais, Sophie, qui est l'une des créatrices du collectif, est très spécialisée dans pure data, l'art numérique, mais aussi dans le do it yourself.
Voilà, il me semble qu'ils étaient présents à l'Open BU Camp de l'an dernier, si je ne me trompe pas.
Oui, c'est vrai, ouais, tout
voilà,
à fait.
Donc,
ouais.
Ils font partie de la sphère, on va dire.
Voilà, donc à suivre de près. Et si quelques Giroliens vont faire un tour, peut-être qu'ils capteront un peu de son, qu'on fasse un petit truc sympa à la prochaine radio. Qui sait ?
Qui sait ?
Qui sait ? Bon, sans transition, on va passer à notre première pause musicale. Et pour ça, on va demander à notre spécialiste...
Voilà,
Thomas. Bonsoir Thomas.
Bonsoir à tous. Alors pour cette quatrième fois de cette année, je vous propose un artiste qui a sorti un album récemment. La dernière fois c'était un vieil album, là aujourd'hui c'est un album assez récent. Notre artiste c'est Cognitif, avec un K, il commence par un K. Et son album c'est Monométrique, qui est sorti en mars 2014 il me semble. Enfin, en tout cas tout début 2014. Alors Cognitif, c'est un pseudo, hein, il est tout seul, il vient de Poitiers, il a 29 ans. Et il fait de la musique depuis toujours, notamment du piano et du synthétiseur. Et depuis quelques années, 3 ans maintenant, il s'est mis à la MAO et ça l'a réussi plutôt bien. Il est fan de trip-hop, voilà. Portishead, Massive Attack, etc. Et il a composé déjà un album, MySpace World, je ne sais pas sous quelle licence il est d'ailleurs. Et un dernier album Monométrique qui est sous licence Creative Commons by ESA.
Donc partage à l'identique. Et paternité et non commerciale, non dérivative.
Non dérivative, voilà. Non. Partage à l'identique.
ND donc, il y a aussi
NC.
Non, Creative Commons by YSA.
Juste by YSA, donc c'est voilà, une licence libre.
Non. Dans le fichier que j'ai téléchargé de Jamendo, il me dit bien by YSA NCND.
Alors moi j'ai recopié ce que j'ai vu sur Jamendo. Alors attendez, je suis sur la page, c'est bien de me poser cette genre de question parce qu'effectivement on pourra revenir sur le sujet tout à l'heure.
Voilà, c'est justement, on y reviendra tout à l'heure.
Non commercial, je vois aussi. Alors c'est un album avec un mélange de pas mal de choses. Il y a du trip-hop principalement, un peu d'électro quand même derrière. C'est un peu musique d'ambiance, down-tempo. Il y a un peu de remix derrière, on sent une sorte d'influence remix derrière. Et un peu de morceaux un peu plus jazzy. Donc c'est un mélange assez éclectique mais assez intéressant. On a des morceaux très différents des uns des autres. Moi j'ai pas aimé forcément tout l'album. Il y a des morceaux que j'ai beaucoup aimés et d'autres que j'ai moins aimés. Alors tout l'album a été composé quasiment au clavier. Et il y a deux featuring dedans, Jeanette Robertson au chant et Jérémy Guerra à la guitare. Alors ce que je vous propose, c'est d'écouter un des premiers morceaux de l'album, c'est So Let's Begin, qui est justement, il y a du chant de Jeanette Robertson dedans, et je trouve que c'est un des meilleurs morceaux de l'album, il a eu pas mal de succès en nombre d'écoutes d'ailleurs.
Oxy Radio, 100% jeune, 100% libre.
The trouble with love always leaves me to return to them. The trouble with pain, oh, you know it eats me, but I get up and fall again. So let's begin. My favorite way to fall.
and again in my head. Empty nights shared are all that we had, and you know it counts, don't let's begin. My favorite way to fall is falling with you, so let's get our first part, let's begin.
De retour
alors,
sur
Radio Girol.
Et vous voilà de retour sur Radio Girol. On espère que le morceau vous a plu. Toi, ça t'a beaucoup plu.
Moi, j'ai bien aimé. Ouais, je trouve que là, c'est bien réalisé, surtout au niveau du son. Enfin, bon, la voix, c'est bien fait aussi. Après, je trouve que au niveau de la mélodie, ça restait un peu trop répétitif.
C'est
y a bien fait. Par contre, son MP3.
Moi, je trouve que pour moi, ça me dérange pas que ça répète justement. C'est ça qui fait aussi le charme de certains morceaux.
Oui, je suis d'accord.
Moi, j'aime bien ce qui est répétitif.
Le principe du genre, c'est le principe. Je suis fan de trip hop, donc voilà.
C'est forcément.
Du coup, il y a une bonne influence hip hop, même dans certains morceaux qu'on écoutera peut-être après. On ressent un petit peu de l'utilisation des voix. Ça me fait un peu Wax Taylor toujours. Moi, j'aime beaucoup. Celui-là, surtout, c'est mon préféré.
Oui. Ouais,
mais je pense que la voix il fait beaucoup. Peut-être.
La voix il fait beaucoup.
Ça donne beaucoup de relief à ce genre de morceau. Voilà.
Sans transition, comme diraient certains journalistes sur la première chaîne, nous allons passer à l'Open Bidouille Camp. Alors, rebonsoir Julien.
Oui, rebonsoir.
Alors, Julien, tu es co-organisateur donc, de cet événement qui va de la deuxième, édition de cet événement.
Ouais, en Gironde, ouais.
Ah là là. Et qui va se tenir. Alors, rappelle-nous les dates.
Alors, ça se passe du 16 au 18 mai à la Fabrique Pola. Donc, c'est une sorte de foire à la bidouille. Donc, ça concerne, en fait, le principe, c'est de réunir sur un seul lieu pendant une durée des ateliers qui ont tous en commun de concerner des savoir-faire partagés et partageables, ou en tout cas pour lesquels on a une volonté de partage. Donc, ça va concrètement d'ateliers de couture à des ateliers de choses beaucoup plus technologiques. On a un hackathon, le Science Hack Day, qui est un événement dans l'événement, en fait. On va enfermer des gens pendant 2 jours pour qu'ils produisent des choses assez pointues. Et à côté de ça, on met dans un même lieu des savoir-faire traditionnels, mais qui sont partagés depuis toujours, de la menuiserie, etc. L'idée, c'est de faire cohabiter le menuisier et le scientifique.
Alors, du coup, tu as répondu à ma première question. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Open Bidouille Camp ? Maintenant, qui sera... Alors, est-ce que tu peux nous donner des entités présentes, des associations, le nom d'associations
Oui, voilà. T'inquiète, je l'aurais dit.
Girol n'est pas une association, attention.
Mais Girol sera présent quand même.
Alors, disons que dans les associations présentes, on a des co-organisateurs qui sont impliqués depuis le début de la manifestation, donc qui sont les petits débrouillards, qui sont une structure d'éducation populaire et de promotion du savoir scientifique, disons, et de promotion participative du savoir scientifique. On a également en co-organisateur Sue Hélène, qui est une asso qui bosse sur la culture textile.
Pas confondre avec celle de Dallas.
Ouais, mais je crois que c'est un peu voulu en fait. Hein, donc ils sont en sorte
d'un jeu de mots.
Ramouch.
On a Jeunes Sciences Bordeaux aussi, qui est une autre asso de promotion de la culture scientifique. Le Labix, qui est le hackerspace qui est installé à la Fabrique Pola. On a également d'autres structures qui sont de Pola. C'est le Labo Révélateur d'Images, qui est des gens qui font de la photo. De la photo et qui organise au sein de l'Open Bidouille Camp un marathon photo. Donc il y a un concours photo ouvert en argentique, en temps limité. Voilà.
Je vois même après, musique sur Commodore 64.
Ouais, ça c'est quelqu'un qui aurait. Qu'on entendra peut-être plus tard ici. C'est un collectionneur de Commodore 64 qui détourne et qui réutilise ce vieux matériel. Voilà. Et pour vous donner d'autres exemples d'ateliers, il y a plein de gens qui viennent avec des imprimantes 3D de différents types et de pour différents objets. Le Labix sort tous ses projets en cours. Alors il y a plein de trucs qui sont en fabrication, pas toujours aboutis, mais en tout cas on fait de la médiation là-dessus. Les petits débrouillards viennent avec le camion du Science Tour. Alors c'est du Science Tour, c'est pas sorcier. Alors c'est un espèce de camion équipé en mini Fab Lab dans lequel les gamins peuvent aller faire des expérimentations. Voilà, on a tout
comme
ça.
Comme le camion de Jamie en fait.
Ouais, c'est ça, un plus petit. Hein, je veux décevoir personne après sur l'événement. Il est plus petit. Hein, il est vraiment plus petit. Mais bon, il est quand même très très bien. Et à côté de ça, il y a tout un côté festif partagé. On a une asso de baltrade qui vient, donc on fait un bal traditionnel avec une fanfare. Et avant, évidemment, on fait des cours de danse pour que ce soit partagé comme le reste.
Est-ce qu'il y aura une disco soupe ?
Évidemment qu'il y a une disco soupe.
Ça, c'était génial.
Voilà, il y a même deux disco soupes. Normalement, ils sont là les deux jours le midi.
C'est quoi une disco soupe
Génial, mais justement, génial.
Ouais, alors c'est concrètement une disco soupe, c'est un repas gratuit qui est confectionné à partir de restes de marché. Donc les gens de disco soupe font le marché, mais à 4h du matin, ils prennent la fin de marché, tout ce qui ne sera pas utilisé, et on fait tout ce qu'on peut faire avec. C'est une asso, enfin, c'est pas qu'une asso, c'est quelque chose qui a beaucoup essaimé dans le monde entier. Et c'est impressionnant. Chaque fois qu'ils font une fin de marché, ils récoltent 100 kilos, 200 kilos de légumes. Et on fait une immense soupe, des smoothies et des choses comme ça avec.
Ouais, c'est, succès, quoi.
C'est un peu dérivé du mouvement Freegans, en fait. Si j'avais bien compris un petit peu.
C'est couplé. Alors, j'ai oublié un détail important. C'est couplé à de la musique. Donc, dans Disco Soup, il y a disco. Donc, ils passent de la musique soit live, soit amplifiée avec un sound system. Pour que les gens ils découpent en rythme. Voilà.
Super. On avait bien découpé l'année dernière.
Ouais, c'était rigolo. Ouais. Surtout que ça réchauffait parce que vraiment.
Voilà. Et c'est là que nous est venue l'idée de faire un jour peut-être une radio mobile.
Ah, ça serait génial ça.
On a l'équipement maintenant pour. Hein.
Une vraie radio mobile.
Une vraie de vraie, avec un camion et tout, on peut s'installer.
Non, avec.
Avec au maximum une mallette.
Non, pas un camion.
Peut-être pas quand même.
Avec une mallette. Mais ça existe déjà comme concept. Ça peut même s'acheter, mais c'est pas donné.
Et nous, on va faire ça. On y travaille.
On y pense.
En tout cas, il n'y a pas de problème sur le pot de Bidoucamp. Vous faites toutes les radios que vous voulez. Hein,
Alors, je ne sais pas. Antoine, moi, je ne serai pas là.
En fait, c'est plus une question de réseau. Est-ce qu'on aura.
On a le réseau. Alors, ce n'est pas parfait, mais on peut y réfléchir et se débrouiller et en discuter. Voilà, il y a plein de structures. En fait, vu que c'est dans Pola, il y a plein de structures qui ont des connexions différentes et qui sont parties prenantes dans l'événement. Donc, on peut en allouer une par moment. On peut se débrouiller de cette manière-là. Donc, je pense que c'est quand même. Enfin, faut envisager le truc. Ce n'est pas bloquant absolument.
D'accord. On va y réfléchir ensemble.
Peut-être posé.
Alors, la première édition de l'Open Bidouille Camp s'est tenue donc à Darwin. Il fallait bien effectivement me remettre un peu, faire quelque chose dans ce tout nouveau lieu bordelais, enfin, qui a à peine un an. Il y a eu quand même 3000 personnes qui sont venues.
Oui, c'est ça. Ouais. Donc, il y avait 26 ateliers et 3000 personnes et c'était seulement en journée. Donc là, on a aussi une soirée au milieu et on espère que ça va fonctionner de la même manière.
Voilà, on a vu effectivement, comme tu le disais, nous on y était présents en tant que gyrolien, on essayait de montrer qu'on pouvait avec du vieux matériel informatique faire des choses pas mal du tout. On avait vu un atelier de cerf-volant avec notre ami JM Armo. Aussi, on avait dit pas mal de trucs autour des sciences.
Ça
on avait vu
drôle.
De sciences, oui, c'est toujours très drôle. Et notamment un espèce de, comme c'était pas, je sais pas vous rappeler, on a vu des cubes. C'était pas vraiment de la photographie. Le mec arrivait à graver sur des cubes.
Des hologrammes.
Ouais, des hologrammes,
ouais,
voilà.
Ouais, hologrammes, ouais. C'était incroyable ça.
Donc,
faut se mettre dans le noir, ça dure des plombes, faut pas bouger sinon c'est foiré.
C'est avec un laser en fait, on reproduit un volume avec un laser, mais c'est génial.
Et dans mon souvenir, c'était un budget très minime en fait pour le faire.
Oui, tout à fait, ouais. C'est un truc vraiment en do it yourself. On imprimait l'année dernière, j'ai même fait des affiches au pochoir quoi, pour vous donner une idée quoi. Donc, on avait des grandes affiches à faire pour les arrêts de tram, on les a faites dans le grenier de Pola avec un pochoir et des bombes de peinture. Donc bon, c'était comme ça l'année dernière.
C'était encore Pola au bassin à flot.
Ouais, au bassin à flot, ouais. Donc voilà, c'était ce mode-là l'année dernière. Là, on essaie d'être plus organisé et tout, mais ça reste le même esprit.
Alors, du coup, moi, j'ai une petite question peut-être un peu plus profonde. On entend beaucoup parler du do it yourself, c'est un peu la mode. Les Fab Labs, notre ex-ministre, c'était le secrétaire d'État au numérique, là, Lafleur, n'avait que ce mot-là à la bouche. mais du coup, est-ce que pour toi c'est un vrai enjeu de société ou est-ce que c'est un truc qui va, une mode qui passera tôt ou tard? Parce que l'impression que ça peut donner, c'est qu'on en parle beaucoup à la télé, dans les journaux, sur des, dans des médias mainstream, mais au final derrière.
Alors moi, ce que je trouve très bien, c'est que en fait, ça a permis de mettre un mot sur des pratiques qui existaient déjà finalement et qui n'étaient pas forcément valorisées, tout simplement parce qu'il n'y avait pas un concept capable de désigner leur toutes leurs valeurs sociales. Finalement, les gens qui bricolaient au fond de leur garage et qui allaient voir le voisin s'entraider sur des objets qui n'étaient pas électroniques, branchés, high-tech, comme ce qu'on aime bien voir aujourd'hui, ils faisaient déjà du do-it-yourself et très souvent partagé. Donc finalement, je pense pas que ce soit une mode, dans la mesure où finalement ça part de très très loin et c'est quelque chose qui est inscrit dans les pratiques de nos grands-parents qui réparaient leurs voitures, etc. Aujourd'hui, les objets ont changé. Vous remettez en service avec des Linux des vieux ordi, mais c'est le même geste. Pour moi, c'est la même chose. Et l'idée de l'Open Bidouille Camp, c'est de faire cette connexion finalement, faire cette connexion et de montrer que c'est déjà là en réalité.
Alors, j'ai envie de rebondir par rapport à la question que tu as posée. Il y a eu d'ailleurs à ce propos une très bonne discussion sur la mailing list du Labix entre est-ce qu'on doit dire un hacklab, un hackerspace ou un fab lab. Et je pense que oui, c'est un peu un troll hein, quelque part. Il y a des gens qui sont pour, des gens qui sont contre, des gens qui sont pas d'accord avec la définition, etc. Et je pense que justement il n'y a pas une définition de hacklab, fab lab ou ce que vous voulez. Il y a plusieurs définitions et chacun a un fonctionnement différent. Certains plus orientés société, d'autres plus orientés bidouille électronique dans son coin. Mais effectivement, comme tu disais, il y a vraiment une partie sociétale, enfin une partie sans entraide, etc. Je pense dans n'importe quelle définition en fait. Mais la définition n'est pas figée et je pense que ça va vraiment encore évoluer. Et je crois que c'est le patron d'Amazon, si je ne dis pas de bêtises, qui avait dit que l'imprimante 3D sera une révolution encore plus grande que celle d'Internet. Et je pense qu'on peut mettre là-dedans les Hacklab, Hackspace, etc. Cette fabrication d'objets de soi-même avec des imprimantes 3D notamment, ça va, je pense que ça sera une grosse, grosse évolution, révolution.
Disons que ça permet d'aller super vite dans la fabrication et ça a l'avantage de toutes ces techniques de fabrication numérique en fait n'ont pas des contraintes techniques qui les rendent impossibles à gérer dans un lieu public. Donc c'est surtout la possibilité, ces techniques, d'avoir des lieux de production publics et ouverts, des lieux qui soient à la fois des lieux de production et de rencontre. Donc on appelle ça Fab Lab quand c'est orienté assez professionnel finalement, ou qu'on appelle ça Hackerspace quand c'est libertaire. Moi ça me va finalement. Enfin, souvent on retrouve les mêmes personnes dans les deux lieux, donc finalement c'est assez... assez rassurant et on a tous une casquette professionnelle le jour et une casquette maker libertaire la nuit.
Alors une autre question, c'est est-ce que tu as entendu parler du projet Flock qui est en train d'être mis en place par le gouvernement de l'Équateur,
pays? Non, tu vas me dire ce que c'est.
Alors Flock, c'est Free and Libre Open Knowledge. C'est en fait le gouvernement, si j'ai bien compris les infos que j'ai lues à ce sujet, pas plus tard que hier, le gouvernement équatorien qui vit, enfin l'Équateur vit pas mal sur ses réserves de pétrole qu'ils vendent, sauf qu'ils sont conscients que tout a une fin, surtout le pétrole. Mmh. Et donc ils essayent de mettre en place des nouveaux processus et notamment au niveau décisionnel. C'est quand même le pays qui accueille Julian Assange, pour l'instant dans son ambassade. Et donc ils ont commencé à parler du buen vivir. Donc le vivre bien en espagnol, dans le sens où il ne faut pas forcément amasser tout un tas de richesses pour bien vivre, mais plutôt parler de qualité de vie. Et là, ils sont en train de mettre en place le buen saber, donc saber, le bon savoir et la partage de connaissances. Et du coup, le projet Flock, c'est de, pour l'instant, réunir tout un tas d'universitaires pour justement parler du partage de la connaissance qui permet au final de mieux vivre. Donc c'est... j'ai vu un très bon article sur Framasoft là-dessus, pas plus tard qu'hier, et donc j'aurais voulu savoir si tu connaissais, ce que tu en pensais.
Alors non, ce projet-là, non, justement, je ne le connais pas, mais je sais qu'il y a d'autres initiatives en Europe qui s'en rapprochent ou qui ont vraiment une logique de partage de connaissances et de partage d'outils de travail libres. À Barcelone, la municipalité a la volonté de développer un réseau de Fab Lab par quartier. Et ça va exactement dans ce sens-là et dans le contexte qui est celui de l'Espagne aujourd'hui. C'est finalement un moyen de reprendre de reprendre l'initiative économiquement par la base. En Argentine également, il y a plein d'initiatives de ce type-là, mais c'est souvent par la base. L'Équateur a peut-être la chance d'avoir des ressources pour mener à partir des moyens de l'État ce type de programme.
C'est ce qui semble être le cas, c'est qu'il y a il y a le gouvernement équatorien qui est impliqué, mais aussi du coup qui implique des universitaires. Ils sont en train de monter tout un collège de chercheurs pour mener des recherches dans la direction justement de free and libre open knowledge.
Non, mais ça permet de, enfin, c'est l'avenir en termes de partage et de bien commun en termes de savoir-faire, quoi. Pour du développement, c'est clair que c'est la meilleure chose qu'on puisse faire.
Mais du coup, là, c'est mettre en perspective, je trouve, le do-it-yourself dans l'avenir économique et sortir de cette ère capitaliste où on essaye absolument d'amasser un maximum de richesses pour soi, sans justement à la partager avec tout ce qui en découle, notamment les brevets, qu'ils soient logiciels, matériels, le copyright. Et là, on essaye justement de sortir de ce carcan-là. Et pas plus tard que la semaine dernière, je crois, Framasoft, j'avais vu une info via Framasoft où il dit qu'il suffit que un pays abolisse effectivement la règle du copyright pour que tout le système s'écroule, puisque si par exemple, on peut dire en Équateur, ils décident qu'il n'y a plus de copyright, il suffit d'aller installer là-bas un service internet qui sera tout à fait de partage de fichiers, qui sera tout à fait légal.
Je n'ai pas lu l'article, j'ai vu juste quelques commentaires qui disaient que ça avait l'air un peu naïf, et c'est vrai que je pense que ça doit l'être un petit peu, dans la mesure où en fait, normalement, le copyright il n'est pas attaché au pays dans lequel l'œuvre va circuler, parce que l'œuvre peut être faite ailleurs. Elle va être attachée en fait au pays d'origine plutôt de l'auteur, quoi. Donc ça restera toujours limité, quoi, comme concept de dire à partir du moment où il y a un seul pays qui le fait, c'est bon, ça va tout péter. Non, malheureusement, je pense que ça suffira pas.
Non, mais c'est effectivement, ça peut mettre un énorme grain de sable dans les rouages.
Bien entendu. C'est-à-dire que si l'Équateur décide d'héberger tout un tas de services qui va permettre d'accéder aux œuvres sans être embêté, comme le fut par exemple Mega Upload, pour ne pas le citer, bon, à ce moment-là, forcément, ça va être plus compliqué s'ils n'arrivent pas à aller le chercher, ce fichu serveur. S'il est réfugié au même endroit que Julian Assange, ils vont avoir du mal à tout faire péter. Mais est-ce que ça va suffire? Je ne sais pas. Il suffit qu'ils leur coupent les câbles sous-marins aussi. Enfin, on peut arriver à ce genre d'extrémité au final, hein, parce que c'est tout petit, l'Équateur.
C'est effectivement tout petit. Ça pèse pas très lourd.
Faut voir. Moi, je dis bien, c'est bien. En tout cas, c'est bien pour les Équatoriens.
Voilà. Mais en tout cas, il y a c'est là où je voulais en venir. C'est surtout qu'effectivement, on voit à l'échelle d'un pays que c'est un peu du renouveau basé sur effectivement cette culture du partage. Parce qu'après tout, le No Pay Bin Week Camp, c'est du partage.
Ouais, exactement. Pour rebondir sur ce que vous disiez sur la politique des brevets, finalement, ce qui est peut-être intéressant avec le cas de l'Équateur ou des pays en développement, c'est qu'il y a une sorte de curseur en fait de la tolérance ou de même de la promotion de ce type de pratique de partage de savoir. Si on est un pays en développement, on a tout intérêt à ce qu'il y ait des savoir-faire de base en bien commun pour que les gens ne passent pas leur temps à réinventer la roue. Si on est un pays très développé avec une compétence de recherche importante, on n'a au contraire pas forcément intérêt, si on est l'État, à ce que les choses circulent. Tout simplement parce que les entreprises, si c'est le cas, ont des soucis d'amortissement des recherches qu'elles peuvent faire. Donc c'est un curseur à placer, je pense. Enfin, la situation est régie, je pense, par ce curseur en majorité.
D'accord. Alors, on va juste passer un peu du coq, revenir plutôt sur notre sujet de départ, donc l'Open Bidouille Camp. L'Open Bidouille, c'est aussi, une association nationale.
Alors, oui, et en fait, c'est une association qui distribue un label, ou en tout cas qui a lancé un label que d'autres gens rattrapent et inventent des choses à partir de ça. En fait, c'est d'anciens journalistes d'ovni.fr qui a fermé en 2012. Qui ont lancé ça quand OVNI s'est terminé. Ils ont inventé ce terme et ils ont fait un premier événement à Saint-Ouen ou Montreuil. Qu'ils ont appelé comme ça, ça a fonctionné et du coup ils ont créé une association qui édite une charte et dont on peut se réclamer, en tout cas on peut se réclamer du terme si on respecte cette charte. L'idée, c'est très semblable à ce qu'on peut avoir avec les makers faire. Donc, c'est des rassemblements de makers avec une idée de partage et de partage du set de savoir-faire. C'est ce dont on parlait jusqu'à présent. Seulement, ça a une tonalité plus vraiment gratuite. C'est-à-dire que les makers faire, leur entrée peut être payante. L'utilisation de la marque, parce que c'est édité par Make, c'est un événement lancé par le magazine Make, est payante. L'Open Bidou Camp, c'est gratuit aussi bien pour les organisateurs que pour les participants à l'entrée, en tout cas.
D'accord. Bon, je te remercie beaucoup pour ces petites précisions. En tout cas, tu restes avec nous pour participer à nos différents sujets. Je propose une autre musique, si Thomas est disposé à nous proposer quelque chose.
Tout à fait. Là, je vous propose un second morceau qui est aussi bien, c'est le quatrième morceau de l'album, si je dis pas de bêtises. C'est Monométrique, c'est le même nom que l'album. Et c'est donc un morceau de une partie en guitare dedans par Jérémy Guerra. Voilà.
Respire, écoute Oxy Radio.
T'écoutes Radio Girolle.
Et rebonsoir, vous êtes toujours en direct du centre d'animation Saint-Pierre à Bordeaux avec le collectif Girol. On vient de parler de l'Open Bidouille Camp. Si vous voulez venir discuter avec nous, il y a toujours notre chat, le canal IRC, pour les plus férus d'informatique. IRC.freenode.net, le canal c'est Dièse Girol. Sinon, vous allez directement sur la page radio du collectif Girol quand vous arrivez sur le site www.girol.org, le petit lien en haut, et en vers le bas de la page, vous avez un petit chat super qui vous permet directement d'interagir, de poser vos questions. Sinon, on a le numéro de téléphone, Antoine.
C'est le 05 81 31 43 34.
Voilà, vous pouvez intervenir là directement avec nous à la radio. Alors, rebonsoir Isa, c'est toi qui vas prendre la parole cette fois-ci.
Ah bon, je pensais qu'on allait parler du jeu, mais bon, non, plus tard.
Ouais, mais du coup, c'est une bonne transition, on parle de la musique
d'accord,
libre.
Oui,
et là, en fait, on va parler de... On s'est aperçu que lorsque l'on cherchait de la musique libre, ou au moins avec une licence permissive, au moins une Creative Commons, même s'il n'y a pas... en NCND, non commercial et pas de travaux dérivatifs, ça nous suffit, que il était parfois très compliqué de s'assurer que la licence était vraie. Et donc Isa nous a présenté, Isa qui est notre spécialiste ici
En fait, bon, c'est un sujet commun pour moi, ça, on va discuter.
On va en discuter.
Ah, en fait,
il y a des choses à dire.
C'est venu en fait de ta recherche à toi, Yorick, tu cherchais une artiste, tu voulais en parler, en présenter son album.
J'ai trouvé sur un site internet qui s'appelle Zik Libre en Bib, qui est fait par les bibliothécaires, médiathécaires à travers la France, qui est censé référencer des albums musicaux sous licence libre voire permissive, comme je le disais. Et là, j'ai trouvé une artiste qui m'a tapé dans l'oreille, c'est le cas de dire, qui s'appelle Lo, un super bon travail aussi bien au niveau de la production musicale que de sa voix, que le texte de ses chansons. J'ai trouvé ça très très bien, sauf que je suis allé effectivement sur Jamendo, mais je n'ai pas confiance en Jamendo, pas forcément, et je préfère vérifier par moi-même que effectivement
Alors, effectivement, si tu veux vraiment savoir si une musique est sous licence libre et vraiment libre, il faut demander à son auteur ou à son groupe d'auteurs, à savoir le groupe. Parce que, en fait, c'est une démarche que d'aller chercher une licence libre. Et quand quelqu'un pose une licence libre et diffuse sur Internet, on ne sait pas réellement qui a fait cet acte-là. Souvent, sur Internet, si tu vas sur le site de Jamendo, par exemple, tu vas penser que c'est l'artiste qui a mis son œuvre dessus, sauf que là, en l'occurrence, en cherchant un peu, tu t'es rendu compte que non, c'était pas
l'artiste, c'était la personne qui lui avait fait sa production.
Voilà.
Du coup, j'ai envie de rebondir à part voir ce que tu dis. Moi, je me suis retrouvé avec des musiques récupérées sur Jamendo il y a quelques années, effectivement sous licence Creative Commons, que ce soit sur le site d'auteur et autres, que je retrouve maintenant, 2-3 ans après, vendues sur Amazon ou d'autres sites comme ça. Et du coup, la question qui découle de ça, c'est de se dire, est-ce que ces musiques... on les considère sous licence libre ou pas? Comment c'est? Est-ce que la musique que j'ai récupérée gratuitement sur Jamendo il y a quelques années, qui était sous licence libre, est-ce que aujourd'hui, j'en fais quoi? J'aurais dû la payer? C'est pas bien maintenant, c'est illégal
non,
ce que
non,
j'ai
Non, 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 normalement non. C'est-à-dire que l'utilisateur, lui, il est de bonne foi. À partir du moment où tu télécharges, on te le dit, c'est sur le site, là, on te dit, voilà, c'est sous licence libre. À partir du moment où tu as téléchargé en pensant que c'était sous licence libre, normalement, tu n'as rien à craindre. Le seul truc, c'est que si, par exemple, dans le cadre de Girol, on fait une fête, on diffuse de la musique, on prend une playlist qu'on pense être libre. Et que là, bingo, parce qu'on a diffusé on a fait de la com sur notre événement, on se voit des contrôleurs SACEM qui déboulent et ils vont prendre la playlist, ils vont dire attendez, ça c'est chez nous, ça c'est chez nous. Il suffit d'un titre ou deux, poum, tu
et
tombes dans un forfait.
Ouais.
D'accord ? Donc à partir de là, il va falloir qu'on prouve. Il va falloir qu'on dise, voilà, oui, mais attendez, ce titre-là, on l'a trouvé à tel endroit, il était sous licence libre. Donc après, on peut se retourner, nous, vers les auteurs, vers les groupes, etc., qui ont fait la démarche de les mettre en licence libre, alors que soit ils ont changé après, soit ils étaient déjà à la SACEM, ils ont fait n'importe quoi. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, ouais, une super plateforme de diffusion, on va mettre ça, ouais, tiens, il faut mettre une licence, c'est quoi ce bazar, tiens, hop, abracadabra, voilà. Donc oui...
Sur IRC, il y a Vinny Lourson qu'on salue qui nous propose de faire une application pour détecter quelle est la licence, un peu à la Shazam.
Oui, ça marche. Ça pourrait, mais non, ça peut pas marcher parce qu'effectivement, l'auteur, en fait, il a tout pouvoir sur son œuvre. Quand on prend une licence libre, de toute façon, on respecte le droit d'auteur. on n'est pas en dehors du ce qu'on appelle le copyright. Le copyright, c'est un terme qui ne nous correspond pas, puisque c'est un terme anglo-saxon. Eux, ils ne connaissent que la partie patrimoniale du droit d'auteur, la partie qui s'échange en pépette, hein, ouais. N'est-ce pas ? Nous, on a le droit moral attaché au...
Et qui dure tant voilà. que l'auteur existe, exact. Et 70 ans après sa mort.
Qui est totalement immatériel, qui ne peut pas être vendu, cédé, etc. Mais qui fait que l'auteur peut dire « Non, je veux pas être diffusé dans un meeting politique, par exemple. » Voilà, il peut opposer son droit moral pour ça.
Chose c'est qui a déjà été faite
c'est
en
compliqué
France.
À faire valoir, mais c'est possible. Voilà, c'est surtout très utilisé par les architectes qui disent « Attendez, une mairie veut modifier un bâtiment, mais l'architecte considère qu'on modifie sa création, donc il va s'opposer à ça. » Ça, c'est très fréquent qu'il utilise le droit moral pour ça. Bref.
Du coup, je rebondis par rapport à ce que tu as dit. Je reprends un exemple sur Jamendo. J'avais découvert aussi un album sur Jamendo de Davida Arkenstone, il me semble. J'ai recontacté quand j'ai lancé un peu les rubriques à la radio Girolle et je lui ai demandé « Votre album, je ne le trouve plus. Je l'avais récupéré sur Jamendo sous la licence Creative Commons. J'ai encore l'album. Je vais même encore avoir l'image avec le Creative Commons. » Donc je vais sur Jamendo, je ne trouve pas cet album. Il dit non, j'ai jamais mis cet album sur Jamendo. Il n'est pas sous licence libre. Effectivement, il est vendu sur Amazon. Dans ce cas, j'ai diffusé ça à Girolle ou sur une radio qui passe du libre et qui peut avoir un problème avec l'assassin, par exemple. Vers qui on se retrouve? Jamendo, l'artiste qui dit qu'il a jamais mis sur Jamendo alors que c'est été. La page n'existe plus.
Tu te retournes d'abord vers l'endroit où sur lequel tu l'as trouvé. Mais en général, quelqu'un quand ça a été mis sur Jamendo, il faut bien que ça soit un utilisateur qui le fasse. C'est pas Jamendo de lui-même qui le fait.
Oui, il y a quelqu'un derrière qui l'a mis.
D'accord. C'est sûr qu'après Jamendo. Ils n'ont jamais été très regardants jusqu'à ce qu'ils mettent une licence pro qui rentre en conflit évidemment avec la SACEM quelque part, puisque c'est le double effet qui se coule pour ceux qui seraient à la SACEM, ils toucheraient de la SACEM et de Jamendo Pro, et ça c'est pas possible. Bref, dans tous les cas, c'est un utilisateur, soit c'est le groupe lui-même, soit c'est un représentant, soit c'est voilà, un intermédiaire. C'est vers cette personne-là déjà qu'il faut se retourner, il faut déjà la retrouver.
Et ça devient très compliqué.
Bon, le groupe, c'est facile. Enfin, s'il existe toujours ou s'il est diffusé quelque part, oui, tu as toujours une trace. Et à ce moment-là, tu vas remonter vers lui. Mais c'est vrai que ce sont eux qui sont les principaux responsables de ce qui se passe avec leurs œuvres. Après, c'est vrai qu'à partir du moment où ils s'inscrivent à la SACEM, c'est juste pour dire « je m'occupe de rien, c'est la SACEM qui s'en occupe ». Mais s'ils ont fait la démarche de s'inscrire ailleurs, c'est qu'ils savent ce qu'ils font. Donc à partir de ce moment-là, c'est vers eux qu'il faut se retourner.
Oui. Donc du coup, on peut se dire quelque part... Jamendo, il devrait quand même regarder un petit peu qui met en ligne quoi et est-ce que c'est vraiment sous licence vérifiée.
Surtout à partir du moment où tu prétends mettre en place un système parallèle ou équivalent.
Niveau au-dessus de la diffusion au grand public.
Voilà, donc oui, il faut vérifier. Mais je pense à titre personnel que le risque zéro n'existe pas.
Oui.
Donc après, l'intérêt, c'est quand même d'aller vers l'artiste pour savoir est-ce que c'est vraiment sa démarche. Parce que. C'est très... Ah, d'accord, on ne sera peut-être pas enregistré, mais ce n'est pas grave. C'est peut-être très bien de mettre des licences, mais en tout cas, depuis qu'en tout cas Creative Commons a contribué à ce que ce soit vraiment très connu, entre guillemets, hein, parce que ce n'est pas forcément
la
connu
la diffusion
tout le monde,
de licences libres.
Mais on sait que ça existe tout simplement par Wikipédia. Il y a d'autres choses que la musique. Il y a plein de... ça concerne l'art, la culture, l'éducation, etc. Donc les licences libres sont devenues très connues à ce titre par le biais de Creative Commons. Mais Creative Commons a pris quelque part au départ d'essayer... de répondre à cette fameuse question, mais comment ils font les auteurs pour vivre ? Parce qu'ils ont mis en place des contrats, type, hein, parce que les licences, c'est rien d'autre que des contrats, oui. C'est compliqué. Et la partie libre des licences, même si elles sont closed NC, etc., c'est-à-dire qu'elles excluent en fait une zone qui sera gérée en dehors, c'est-à-dire la partie commerciale. Donc tout ce que la licence gère, elle, ça concerne tout ce qui n'est pas commercial. D'accord ? Mais ils ont fait en sorte que sur certaines licences, donc les closed NC, on puisse donc faire sa tambouille avec. Et ils ont même fait une licence qui s'appelle CC+, et qui, à ma connaissance, est celle qui est utilisée par Jamendo, par exemple, pour faire son package Jamendo Pro. C'est-à-dire pour dire, bah, je vais mettre un contrat à côté pour faire de la thune.
Ouais.
Je dis, faites ce que vous voulez à partir du moment où c'est non commercial, mais dans le cadre commercial, voilà ce que vous pouvez faire. Mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails du détail du détail. Le fait est qu'en faisant ça, on va dire... On va inciter les gens à penser à la rémunération en même temps que la licence libre. Et donc forcément, ça va amener des biais qui seront liés à ça, quoi. Donc au final, on va se retrouver avec des gens qui vont dans le cas donc de ces auteurs s'inscrire à la SACEM, ou avant ou après, et vouloir faire les deux en même temps, et vouloir aller chez Jamendo, et aller sur Amazon, et voilà, et aller un peu partout, quoi. Et
est-ce que, justement, il n'y a pas aussi un problème, enfin, du côté des artistes, en se disant, l'artiste, lui, il est là pour faire de la musique, il n'est pas forcément juriste, il ne s'y connaît pas forcément en licence.
On est d'accord.
Oui, il y a aussi un problème par rapport à ça. Un artiste ne peut pas forcément connaître. Confiance à Creative Commons en disant bon, je diffuse ma musique libre.
Non, parce que le problème, il est que là, tu pars du principe qu'il sait, qu'il fait la démarche de faire de la musique libre. Et moi, je pense que la plupart du temps, il ne fait pas cette démarche-là. Il est sur une plateforme, elle est fun, elle est sympa. On lui dit tiens, va chez Jamendo, tiens, il y a Jamendo Pro, tiens, il y a machin, il y a truc. Tu peux faire, tu vas avoir des écoutes ouais. Et tout.
Creative Commons, c'est inclus dedans, quoi. C'est dedans, bah, c'est je fais avec.
Voilà,
quoi,
ça fait ouais. Partie du package. C'est moderne, peut-être, un peu fun, un peu voilà.
Mais en même temps, geek, en même temps,
l'audience.
Et en fait, ils ont pas. Il y en a très peu qui font là réellement la démarche de dire je fais du libre. Il y a un gars qui, il y a un jazzman qui est pas tout neuf, hein, qui s'appelle Steve Coleman, qui dès les années début des années 2000, en même temps que les licences ont été créées pour la culture, lui faisait cette démarche-là. Il a fait tout un blabla sur son site qui est toujours. Et en fait, lui, il laisse ses titres en libre téléchargement, pas tous, mais un certain nombre. Il est américain, il peut le faire, parce que même s'il est dans une société de gestion des droits, lui, il peut.
Pas avec l'Assassin.
Mais voilà. Bon, c'est... Et il explique pourquoi. Il a une vraie démarche. Lui, il utilise zéro licence. Mais de fait, il fait de la musique libre. Parce que lui, il explique ce qu'il fait, sa démarche n'a pas changé. Voilà.
En fait, une licence, quoi. En France, du moins, une licence n'est pas nécessaire à la diffusion d'une œuvre.
Non.
Puisque de toute façon, le droit moral reste attaché à l'auteur. Donc l'auteur fait
Alors non, mais si tu mets ton titre en ligne pour le télécharger, pour que les gens puissent l'écouter ou le télécharger, ben c'est très bien, ils auront juste le droit de faire ça et puis c'est tout. Ils n'auront pas le droit, sauf si tu l'écris explicitement, oui. De le donner à quelqu'un sur une clé USB. Ils pourront ouais. Dire à son pote qu'il veut le faire. Si tu veux le faire pour le filer à n'importe qui d'autre, tu peux lui donner le lien sur lequel tu as trouvé le truc, mais théoriquement, tu n'as pas le droit de le copier sur un autre ouais. Support.
Voilà. Donc l'auteur doit préciser quel usage on peut faire de
voilà.
Sa musique.
Donc, c'est vrai que c'est le côté pratique des licences. Ou, ouais. Voilà, le côté pratique des licences, c'est de dire ouais, on a l'ère du numérique, ça n'a plus de sens, la copie. Voilà. Donc ça simplifie les choses dans ce sens-là. Mais derrière, il faut envisager autre chose, c'est qu'il n'y a pas que le numérique, c'est-à-dire que l'œuvre doit être libre de circuler dans un espace non commercial, hein, puisque c'est le principe de base de toutes les licences, même les restrictives. Et là, se pose le problème de la définition de ce qui est non commercial. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a un peu un conflit quoi, avec certaines... Et oui, parce que par exemple, la SACEM, elle définit ce qui est public et privé, et donc, le non commercial, pour elle, le commercial peut être dans le public.
En fait, d'après ce que j'ai compris, d'après la définition de la SACEM, ce qui est commercial, ici, nous faisons du commercial parce qu'on est hébergé par un centre d'animation qui propose des animations avec une carte d'adhésion. On paye une carte d'adhésion, donc c'est du commercial. Et donc, normalement.
Non, c'est juste parce que c'est public.
Voilà. Oui, ils vont quand même plus loin, là.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils considèrent que tu fais un événement, tu payes de l'électricité. Tu payes de minimum de logistique, ça veut dire que si tu diffuses de la musique pour agrémenter ton événement, eh ben, tu dois aussi payer les auteurs. Voilà. C'est, si vous allez sur les sites, vous allez voir les explications. Hein.
En tout cas, il faudrait qu'on revienne au thème central, c'est-à-dire des fois, il est très difficile pour
voilà, c'est
nous...
très compliqué, effectivement, puisqu'en fait, quelle est la démarche de l'auteur ? Est-ce qu'il a fait parce que c'est fun ? Est-ce qu'il a fait parce qu'un pote qui gère le groupe ou le net label l'a fait ? On ne sait pas. Donc, effectivement, c'est bien de demander aux auteurs ou aux groupes parce qu'on sait réellement quelle est leur démarche à eux. Et qu'est-ce que ça peut devenir si effectivement on pourra continuer à diffuser, continuer à...
Du coup, voilà, formellement, mais plus simplement, en fait, c'est plutôt, au lieu de poser la question à l'auteur, est-ce que votre musique est libre, plutôt poser la question, quelle est votre démarche
artistique c'est ça, exactement.
De diffusion autour
Tout
de votre œuvre, quoi.
Exactement.
Mais ça devient très compliqué.
Mais la démarche change.
Non, parce que ça devient plus simple, parce que justement, on va se détacher de la licence. Moi, je pense que c'est plus important de savoir qu'est-ce qui motive l'auteur, plutôt que de se dire est-ce que le contrat, oui, est-ce que ouais, au niveau juridique, ouais. De se prendre la tête à ce niveau-là. Parce que dans le fond, c'est lui qui détient le pouvoir total sur son œuvre. Donc voilà.
Mais la démarche peut changer. On prend l'exemple de Jack, on a Thomas a fait une petite chronique sur Jack, un artiste qu'on a tous bien aimé ici. Et en fait, je me suis aperçu que ces morceaux étaient vendus sur iTunes avec un gros copyright Jack. Voilà. Et
ouais. Je l'apprends. Tu me le dis, je l'apprends maintenant.
En fait, je suis abonné à sa page Facebook.
C'est pas incompatible.
C'est pas incompatible. Ouais, moi, c'est l'idée, c'est.
Tu peux vendre à partir du moment où tu peux trouver ailleurs un téléchargement gratuit ou non payant, quoi. Ce qui fait en licence, je sais pas.
Creative Commons by NCSA.
NCSA, il y a pas de problème entre guillemets. Il y a pas de problème. Tu peux vendre à côté. C'est pas le souci, mais. Après, c'est sûr que si les gens qui achètent se rendent compte après que c'était gratuit ailleurs, vous vous demandez comment ça se fait. Bon, peut-être qu'il met un lien sur son site et que voilà, j'en sais rien, je sais pas comment ça se passe. Hein.
Non, j'ai rien vu. J'ai vu juste que c'était payant. Après, ça peut être tentant effectivement pour un artiste qu'on apprécie de lui faire un don. Comment on fait un don
voilà. Voilà, peut-être voir ça comme du don effectivement.
Mais c'est pas incompatible. Alors moi, le cas que j'ai trouvé et que j'ai trouvé assez souvent, et notamment en allant sur Zeeklibrambib, c'est le cas d'artistes. Et qui diffusent par exemple sur Bandcamp et qui mettent leurs œuvres avec une licence libre, NC ou même avec une restriction, bah, bref, une licence Creative Commons, mais en streaming only, c'est-à-dire juste à l'écoute gratuite et téléchargement payant. Donc là, j'en vois un, j'en vois deux, et au bout d'un moment, je me dis, c'est pas possible, quoi, c'est pas compatible avec la licence parce que j'ai cherché et je n'ai jamais trouvé de téléchargement gratuit nulle part. Donc j'ai envoyé un mail à la liste Creative Commons France. Il y a une mailing list où tout le monde peut s'inscrire pour participer. Et je leur ai posé clairement la question. Est-ce que c'est dans les clous ou pas? Bon, donc il a fallu préciser, ça a été un petit peu long. Au final, j'ai trouvé moi-même la réponse dans la foire aux questions de américaine, pas la française. Et bien, en fait, c'est autorisé. Et j'ai eu une réponse en fait de Mélanie Dulandronnet. Qui a bien confirmé qu'on pouvait tout à fait utiliser une licence Creative Commons, faire que du streaming only, et ne pas mettre de download gratuit, d'accord. Donc, par contre, celui qui paye, s'il y en a un qui paye et qui le met en peer-to-peer ou ailleurs gratuitement, il sera dans les clous, il respectera la licence.
C'est-à-dire, si je la télécharge, je me débrouille pour la récupérer du site du streaming, voilà. C'est légal, ça reste légal.
Non, oui, tu peux contourner, oui, tu peux contourner
en
même
le. En contournant avec un plugin pour récupérer la musique.
J'ai posé la question. Est-ce que c'est toléré? Visiblement, oui, si l'usage du truc en question est toléré. Là, il y a quelqu'un qui a répondu sur la liste. Ouais, c'est un peu quand même.
Donc techniquement, c'est caduque déjà, comme.
Oui.
C'est pas.
Oui, c'est techniquement caduque. C'est complètement aberrant. Philosophiquement parlant, je trouve ça complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire qu'en plus de ça, ils n'ont pas répondu philosophiquement parlant. Ils n'ont pas voulu. J'ai eu très peu de réponses. Il y a des gens qui ont réagi de la mailing-list en disant ah oui mais c'est normal. Enfin, il y en a beaucoup qui trouvaient ça normal que des gens puissent écrire un bouquin par exemple et le mettre en CC, je sais pas quoi, et le mettre en téléchargement payant pour inciter les gens à payer et puis ne pas le mettre en téléchargement gratuit. Voilà, il y en a qui trouvent ça normal. Moi personnellement, je trouve pas ça logique.
Alors, on va juste arrêter parce que l'heure tourne et on a encore un petit sujet, deux petits sujets à aborder. Est-ce qu'on peut passer une petite musique rapide pour bien découper?
Deux secondes la musique.
Deux secondes, non.
Alors, la troisième musique.
Allez, vas-y.
De Cognitif, c'est You Don't Know. Et je vous laisse la découvrir.
Oxy Radio. La radio la plus jeune du web.
Blow your mind. It's like throwing sand in a delicate machine and hoping nothing goes wrong.
et de vous êtes de retour sur Radio Girol. On va vraiment se dépêcher parce que chez Oxy, ils vont nous oxyre, justement. Encore un jeu de mots. Alors, cette fois-ci, on va parler jeux vidéo. Bah, vous nous connaissez chez Girol, on aime ça, le jeu vidéo, et on va vous parler d'un jeu vidéo développé, enfin, si on peut appeler ça développé à l'origine, par un studio que beaucoup de Giroliens aiment bien, qui s'appelle Double Fine. Je ne sais pas si vous connaissez autour de la table Double Fine.
Si.
Ah, un peu. Tu connais, toi, Julien? Tu joues un petit peu?
Du tout, j'ai tout lâché. J'ai tout lâché, comme ça, j'ai plein de temps pour
faire. Marco, il joue qu'à GTA, lui. Antoine, pardon. Marco, il joue à Star Wars. Pardon. Alors, Double Fine, c'est un studio de développement à San Francisco qui s'appelle Double Fine pour une raison assez sympathique. C'est qu'en fait, ils sont juste en face du pont de San Francisco. Pardon, et apparemment, le pont de San Francisco est la zone Double Fine où un automobiliste qui se fait arrêter et qui a une prune, il doit payer deux prunes parce que le pont est entre deux états ou deux villes, je ne sais pas exactement. Donc voilà. Donc il s'appelle Double Fine. Le logo est un espèce de personnage à deux têtes.
Voilà.
Il a été créé par un mec qui est relativement connu quand même dans le monde du jeu vidéo, qui s'appelle Tim Schafer. Alors Tim Schafer, pour ceux qui connaissent, il a été embauché à l'origine chez LucasArts. Il a travaillé sur les jeux en point and click les plus fameux de LucasArts, notamment Maniac Mansion, avec qui il a collaboré avec un autre célèbre mec, Ron Gilbert, qui a lui ils ont aussi ensemble développé Monkey Island 1 et 2, qui sont des jeux relativement célèbres. Tim Schafer, il a travaillé aussi sur Day of the Tentacle, un jeu auquel a participé notamment d'assez loin, mais quand même, un certain Chuck Jones, qui a fait dans les années 70 des Tom et Jerry, avec, vous savez, avec les décors un peu tout cassés, rien n'était droit. Et voilà, quand il était chez Lucas, son dernier jeu, c'était notamment Grim Fandango. Ah, je vois Mathieu qui arrive là, ça parle de jeu et ça l'intéresse. Donc Grim Fandango qui est sûrement le meilleur jeu point and click de LucasArts, un truc complètement déjanté. Et ce qu'il y a d'intéressant chez Tim Schafer, c'est que il est venu aux jeux vidéo parce qu'il aimait l'informatique, mais surtout parce qu'il aimait l'écriture. Et donc ces jeux sont ont un côté artistique non négligeable. Je sais pas si tu peux dire quelque chose là-dessus.
Le design, enfin le graphisme. Toujours quelque chose à part quoi, par rapport à d'autres jeux.
L'écriture aussi, les scénarios.
Ouais, surtout le scénario. Enfin, après, je pense que c'est aussi bien s'entourer de bonnes personnes, mais enfin, on voit sa touche. Quoi.
Voilà. Alors, c'est justement après Grim Fandango qu'il est parti avec quelques membres de l'équipe qui composait l'équipe de développement de ce jeu pour partir former son propre studio Double Fine au début des années 2000. Et leur premier jeu n'était ni plus ni moins que Psychonauts. Pour ceux qui connaissent, c'est un fabuleux jeu de plateforme, sûrement l'un des meilleurs sur PC, avec une histoire complètement déjantée et aussi un côté graphique visuel énorme. Après, ils ont aussi fait un autre jeu après, Brutal Legend, qui est notamment, enfin, qui avec la participation de ni plus ni moins de Jack Black, quand même un personnage assez sympathique, un acteur américain, chanteur, qui fait des trucs très sympas. Et c'est justement pendant la création de ce jeu qui a pris pas mal de temps et qui a mobilisé ses équipes et qui les a beaucoup épuisés, qu'il a décidé de créer, donc Tim Schafer, un espèce de concours de jeux vidéo au sein même de son studio qui s'appelait Amnesia Fortnite. Donc c'est un concept pour initier de nouvelles dynamiques de création au sein de son studio. C'est un concept qu'il a repris du réalisateur Wong Kar-wai lors de la réalisation de son film Ash of Time. Pareil, c'était un film que Wong Kar-wai a mis très longtemps à faire, presque 3 ans. Et quand il sentait que ses équipes étaient un peu sur les rotules, il partait s'exiler pendant 3 semaines et il travaillait sur des rushs complètement à l'opposé de son film. Et c'est avec ces rushs qu'il a créé 2 films. Relativement connu, plutôt fun et décontracté, qui sont Chucking Express et Fallen Angel. Donc il a repris, cette façon de faire de Wong Kar-wai. Il a décidé de couper tout, de couper les ponts avec ce que faisait habituellement le studio Double Fine et de proposer à ses employés de se diviser en 4 équipes de développement et de lancer une espèce de concours de jeux vidéo interne pour mettre en place très rapidement des prototypes de jeux vidéo. Ça a relativement bien marché. Ça a tellement bien marché qu'en février 2012, il décide de s'allier avec la fameuse compagnie américaine Humble Bundle Corp pour proposer aux internautes de voter pour les prototypes qu'ils jugent les plus prometteurs. Et de là vont être produits 5 jeux. Il recommence donc en novembre en novembre 2013, un autre partenariat. Et par, dans les jeux qui ont, dans les prototypes proposés, il y a un jeu qui s'appelle Bad Golf 2, qui vous met dans la peau d'un, d'un joueur de golf. Le but étant de mettre la balle dans le trou, mais aussi d'écraser ses adversaires, leurs balles, de faire des courses de stock caddie, en fait, d'empêcher vos, vos adversaires de marquer des points. C'est un jeu qui, un pro, du moins, c'est un prototype de jeu qui se joue à 4 en réseau, mais le prototype n'est pas retenu par les votes du public. Qu'à cela tienne, la communauté décide donc de demander la permission à Double Fine de développer de façon communautaire le jeu. Et le créateur du jeu, donc Patrick Hackett, répond à la communauté que c'est génial, qu'il trouve l'idée excellente. Et donc ça a été fait. Le code du jeu a été publié sur GitHub avec une licence Creative Commons Share Alike non commerciale. Et Patrick Hackett, donc le créateur, continue d'ailleurs à développer le jeu. Le jeu a une, plus d'une vingtaine de contributeurs à l'heure actuelle. En espace de voilà, le jeu a été libéré en février. Et depuis le mois de février, voilà, une vingtaine de contributeurs s'acharnent pour le rendre meilleur.
Qu'est-ce qu'il y a comme type de contribution ? Est-ce qu'il y a surtout du code ou est-ce qu'il y a aussi de...
Il y a pour l'instant beaucoup de code.
Ouais.
Voilà, le jeu n'est pas vraiment jouable. Enfin, moi, j'ai essayé, mais en même temps, à jouer tout seul, ça ne va pas être marrant. Il faudrait justement que certains Gyroliens et Gyroliennes m'accompagnent pour que l'on puisse.
Il fonctionne sous Linux.
Il fonctionne sous Linux. Oui, j'ai l'exécutable ici.
C'est encore plus simple.
Voilà, il fonctionne sous Linux. Il est donc multiplateforme. Il est assez difficile de trouver les builds. En fait, il faut un peu farfouiller, mais depuis le forum Double Fine, on les trouve.
Ça serait bien s'ils étaient hébergés sur Lutris, par exemple.
Ça serait pas mal. Après, c'est à toi de voir.
À proposer.
Non, c'est. N'importe qui d'avoir.
Donc voilà, c'est une initiative relativement que je trouve vraiment sympa, sachant que voilà, je devais définir en fait le jeu, c'est un croisement entre le PGA Tour et Demolition Derby pour ceux qui ont connu ce bon jeu à l'époque PlayStation. Voilà, donc je vous invite à aller rechercher donc Bad Golf 2 parce que Patrick Hackett avait déjà fait un premier prototype de Bad Golf 1 qui n'a pas été plus loin. Et il parle éventuellement peut-être de faire un jour un Bad Golf 3, mais cette fois-ci vraiment édité et développé par Double Fine. Donc voilà, c'était pour la petite histoire assez sympathique. Juste pour dire aussi que Double Fine édite un jeu qui a l'air vraiment sympa qui s'appelle Escape Got 2. Donc allez voir, il faut faire sortir une chèvre.
C'est de Double Fine aussi, ça ?
C'est édité par Double Fine et d'accord. C'est développé par quelqu'un d'autre.
Okay.
Voilà pour tout ce qui était jeux vidéo. Bon, vous avez rien à rajouter ?
Non, c'était très bien expliqué.
Bon, j'espère que vous n'allez pas avoir perdu parce qu'il y avait quand même des embranchements à droite, à gauche.
C'est à tester en fait.
C'est à tester.
À tester sous Linux et à plusieurs sans doute.
Oui, ça doit être assez marrant.
Ouais.
Même si vraiment, alors le moteur du jeu utilise Unity. Enfin, le moteur de jeu est Unity, donc c'est des fichiers qui vont avec Unity. Hein.
Du coup, les développeurs ne sont pas sur Linux.
Ça, j'en sais rien du tout.
Unity n'est pas porté sur Linux. L'éditeur.
L'éditeur. Ben
oui,
voilà.
L'éditeur, oui, parce qu'après, ça
en fait,
sur Linux.
Tous les développeurs travaillent sur Windows. Après, ils cliquent sur un bouton exporter qui fait un binaire Linux. Mais le code en lui-même n'est pas modifiable sur Linux. C'est ce qui est un peu dommage, d'ailleurs. C'est-à-dire que tous les contributeurs travaillent sur Windows. Quoi.
Ah, bien.
Ouais.
Donc.
C'est moins cool.
C'est libre, mais...
La prochaine voilà. Fois, si Crysis développe son moteur maintenant pour Linux, peut-être qu'un jour, on verra des éditeurs arriver.
Il y a une grosse demande pour Unity qui porte leur éditeur sur Linux. Enfin, quand même, beaucoup de gens qui les poussent à sortir ça. Quoi. Donc, peut-être un jour, oui, on pourra...
C'est une question de temps, je pense.
C'est une question de temps, mais peut-être il faut qu'ils veulent. Mais c'est deux choses différentes. Et on peut porter le moteur, enfin les jeux sur Linux... L'éditeur, c'est toute autre chose. Quoi. C'est un logiciel entier. C'est un autre problème. Quoi.
Voilà. Bon, mais sur ces bonnes paroles, on va vous laisser parce qu'il est déjà 20h15 et que Oxy Radio va vraiment nous étriper. Donc voilà, on vous souhaite à tous une bonne soirée. On vous donne rendez-vous dans exactement un mois, le 13 mai de cette même année. Merci à Antoine qui n'a pas dit grand-chose, mais qui était à la technique. Merci Julien d'être venu avec nous.
Merci à vous.
Merci pour ces contributions musicales, Thomas.
De rien.
Merci à Isa.
Je pense que je vais passer la main, sans doute à toi, pour la rubrique musicale.
Ah non, mais ça, tu vas continuer.
J'ai lancé l'idée, Et je trouve que ça a l'air de marcher. Et je pense que je vais te confier la rubrique musicale, vraiment.
Ben non. La prochaine.
Tout le monde
juste...
peut participer.
Tout le monde peut participer.
Voilà, exactement. Tout le monde peut participer.
Tu peux écouter l'eau, parce qu'on va, normalement vous présenter l'eau justement le mois prochain. Tu peux l'écouter pour pouvoir justement en parler. C'est ça qui est intéressant. Bon, merci à tous. Bonne soirée et à dans un mois.
T'écoutes Radio Gironde.